Bonjour Bruno.
Bonjour Fabien. Alors une fois n'est pas coutume, je vais parler littérature jeunesse, album de bande dessinée pour la jeunesse, avec Sophie Guérive qui publie un nouveau tome de sa série Tulip avec Les Amours Tulip, c'est un tome 5, et puis il y a le quatrième tome du Club des Amis, dont Tulip fait partie, et puis 6 livres de ces petits formats carrés, entièrement cartonnés, de 12 cm par 12, qui font la joie des tout-petits. Eh bien, Sophie Guérive déploie son écriture jeunesse dans tous ses domaines. On la retrouve vers 14h15. Générique. Écriture dessinée. Bonjour à toutes et à tous. Alors la programmation musicale a été choisie par Sophie Guérive, ça sera des musiques de dessins animés, pas des moindres, vous verrez. Et donc je voudrais démarrer par une brève, parce qu'il y a l'exposition Naruto qui démarre et qui se trouve à Montpellier, à Pierre-Vive, à Montpellier, ça se trouve à la Payade, et c'est à l'espace Balcon. Alors, je ne vais pas toujours vous présenter une expo en Bretagne, donc là c'est quand même nettement plus près. Et donc Naruto, c'est ce manga créé en 1999, qui est traduit aujourd'hui dans une soixantaine de pays, le nombre d'exemplaires vendus est impressionnant, et donc Pierre-Vive, en partenariat avec le Centre belge de la bande dessinée, avec les éditions Kana et avec Tsume Art, présente une sélection de planches qui va vous permettre de vous plonger dans ce manga assez exceptionnel. C'est une série qui développe des valeurs beaucoup plus positives et qui dénote d'un certain nombre de mangas qui, eux, développent des valeurs beaucoup plus négatives. Et donc, c'est un passage important dans cette expo Naruto pour découvrir une facette des mangas. Les Shadok. Alors, j'ai encadré la présentation des livres de Sophie Guérive et son entretien avec trois livres où il y a ce rapport texte-image qui est important, puisque c'est vraiment au centre du travail de Sophie Guérive. Je vais commencer par Pauvre Meuf, qui est un récit complet qui est écrit par Éléonore Coste et qui est mis en image par Aria. Cette relation texte-image, elle est essentielle dans la bande dessinée, puisque on hérite d'une situation assez classique où un dessinateur, avec son trait, mettait en image un scénario. Et puis, on a vu une très grande différence de dessin s'imposer. Et donc, cette relation texte-image devenait de plus en plus sensible et pouvait ouvrir à quelques variations assez novatrices. Pauvre Meuf m'a laissé dans la contrariété parce que on a un dessin qui est simple, c'est pas tout à fait le mot, mais en tout cas très lisible, avec un personnage qui est plutôt comme trois pommes, qui n'a pas de proportions réalistes. Donc on est dans un univers déjà particulier de la bande dessinée. C'est aussi un livre qui va avoir une palette de couleurs assez restreinte, avec des aplats très marqués, une utilisation du fond blanc régulière qui donne un vide à la case qui est toujours intéressant, et notamment pour le type du récit de Pauvre Meuf. Pauvre Meuf, c'est un récit autobiographique. Il a eu une déclinaison en série télévisée qui est diffusée actuellement sur Arte et qui s'appelle Bouchon. Alors c'est l'histoire, il y a certainement une part d'autobiographie en tout cas dans ce récit de pauvre meuf qui met en scène une jeune fille, elle est enfant, elle s'appelle Lolo et on va découvrir sa vie, son évolution et les affres qu'elle va rencontrer, ce rapport aux hommes qui va être plutôt toxique. Et donc, on a un récit qui va être vraiment dans la tension, dans la difficulté d'exister, dans un malaise de vivre important, et qui se retrouve associé à ce dessin extrêmement joyeux, on peut dire, qui n'a pas cette tension et cette incandescence, mais qui va au contraire, par la souplesse de son trait, par une certaine simplification, par ses proportions qui ne sont pas réalistes, par cette mise en couleur sobre. Et on reste un peu surpris par cette association. Alors, c'est un livre qui est quand même important, parce que dans le parcours de Lolo, il y a l'expression des doutes. Son père, à un moment, va discuter avec sa mère et il va dire, malheureusement, Lolo entend, mais, alors, je vous cite précisément, mais on ne peut pas faire que des enfants géniaux. Dis pas ça, elle était première de sa classe en primaire. Mais elle est con comme un balai. Vous imaginez l'enfant qui va entendre ça de la bouche de son père. Et donc, il y a un mécanisme qui s'enclenche. Et Lolo va toujours chercher la fierté, d'être la fierté de son père, de pouvoir avoir cette reconnaissance. Il y a des moments très difficiles sur la relation entre le travail et puis les abus d'une personne qui peut vous embaucher. Il y a, excusez-moi, l'éternuement se rapproche. Et il y a donc ces malheurs dans la relation qui sont exprimés avec un dessin très différent, puisqu'on va avoir sur les scènes très tendues avec les hommes un dessin sur un fond bleu avec un trait blanc et des aplats blancs pour le personnage qui va donc décaler et annoncer ce type de scène. C'est un livre qui, on sent qu'il y a une dimension narrative, mais elle échappe vraiment à cette incandescence et la tension tombe du fait de cette mise en image. Pauvre meuf est donc un récit complet d'Éléonore Coste et pour le scénario et la mise en image est d'Aria. Les 144 pages de ce livre sont au prix de 19 euros. C'est publié par les éditions Delcourt avec une collection qui s'appelle Une case en moins, qui est une très belle collection, mais qui, là, ça achoppe. Et le livre a été publié, imprimé en Belgique. Les moustiques. Alors, c'est pas très fréquent non plus que je présente des intégrales. Ben là, ça va être le cas avec celle de Joséphine, qui est une des héroïnes de Pénélope Bageux. Pénélope Bageux, c'est une autrice qui a développé une œuvre avec beaucoup de sensibilité, d'intensité, de virtuosité même, mais on ne la voit pas, elle n'est pas spectaculaire, mais elle permet en tout cas à ses récits de faire mouche. Et avec Joséphine, on a cette intégrale qui regroupe les trois tomes de la série. C'est un ensemble de gags en une page, parfois deux. Et Joséphine, c'est une trentenaire qui mène sa vie un peu comme elle veut, enfin surtout comme elle peut. Et c'est mi-chemin entre un gag et une tranche de vie. En tout cas, c'est une héroïne qui est très attachante, qui va développer l'empathie et qui a une certaine capacité à avoir des déconvenues. Elle est souvent à l'origine de ces déconvenues. Elle va gérer plutôt mal ses relations professionnelles. Elle a beaucoup de mal à se faire entendre. Elle accumule les bourdes et enchaîne quelques faux pas dans sa vie amoureuse. Alors souvent, on a des héroïnes qui ont une situation avec soit une solitude très intense, soit un malheur dans les relations amoureuses, soit au contraire un compagnon très toxique dans le couple. Et donc Pénélope Bageux a au contraire choisi d'avoir avec Joséphine une héroïne qui va d'abord être effectivement seule, recherchant un compagnon. Il y a le couple qui va se mettre en place et il y a même l'enfant dans le tome 3 qui est là. Donc sa vie amoureuse va vraiment évoluer. Donc ça libère complètement le scénario et permet à Joséphine Bageux de s'attacher à ses petit détail du quotidien qui fait que paf, ça chope, on était plein d'espoir et là il y a quelque chose qui s'échappe, qu'on n'arrive pas à saisir et qui fait que c'est pas encore pour cette fois. Et ça peut se faire dans tous les domaines, dans notre relation à son propre corps, aux amis, au milieu professionnel, aux réunions de travail. Bien sûr, aux hommes qu'on a envie de rencontrer, à celui qu'on aimerait avoir près de soi. Et à chaque fois, Pénélope Bageux va donc choisir un titre qui va être illustré par une planche ou deux planches de bande dessinée. Alors, Joséphine s'est inscrite sur Mythique et on a cinq personnes qui ont postulé et c'est la cata. Il y a Joséphine n'aime pas Halloween et au milieu d'un ensemble de personnes déguisées, elle est en contrôleur de gestion. C'est pas très fun comme costume. Et à chaque fois, en fait, Pénélope Bageux va saisir ce petit détail qui, par accumulation de l'ensemble de ses gags, va composer une personnalité qui évolue ainsi dans le temps, puisqu'elle passe d'une sorte de célibat, pas toujours assumé, à une vie de mère de famille avec son compagnon. Et puis il y a le trait, il y a le dessin de Pénélope Bageux, il y a sa mise en couleur. Il y a un découpage très simple, sans cadre, avec des cases, avec des bords arrondis. Il y a une régularité dans les hauteurs de bandes d'images. On est sur du 4 ou du 3 bandes, mais à chaque fois que l'un ou l'autre est convié, il y a cette régularité qui donne une fluidité au récit. Et puis il y a son dessin, un trait simple, précis, au noir, qui est sans hésitation, sans hachure, un trait de contour, qui va à chaque fois dessiner le mouvement des corps. Et la gestuelle peut ainsi être amplifiée. L'expression des visages à chaque fois est travaillée. Fait rare, Joséphine porte des lunettes. Essayez d'imaginer de faire varier des expressions de visage avec des lunettes. Et bien là, non seulement il y arrive, mais les lunettes participent à l'expression du visage et à ses variations. Et donc, on a une ironie à la fois dans le dessin, dans la mise en couleur, dans la façon de traiter les décors, dans cette mise en scène et cette mise en image, dans la façon de convier des images pleines pages. Ça fonctionne à merveille. Voilà, si vous ne connaissiez pas Joséphine, ça sera plus simple, vous en avez trois d'un coup, puis il n'y en aura pas d'autres. C'est quand même pas mal. Pour moi, c'est vraiment un sommet. Alors, c'est publié aussi par les éditions Delcourt. C'est une intégrale qui fait 192 pages, son prix est de 24 euros. C'est imprimé en France. Et c'est vraiment une belle héroïne. Musique.
La grenouille est une petite bête qui aime chanter dans les fêtes. Quoi, 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 quoi. C'est un animal symphonique, fanat de la quac-quac musique. Quoi, 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 quoi. Soudain, une grenouille se trouve mal, elle tremblote, elle devient pâle. Pourquoi ferme-t-elle les yeux? Une grenouille malade, c'est affreux.
Quoi, quoi, parce que j'ai chaud. Quoi, quoi, que je suis gelée. Quoi, quoi, que j'ai mal dans le dos. Au secours, je vais trépasser.
Mon Dieu, que se passe-t-il? Quelqu'un est en péril.
Quoi, quoi, que j'ai des faiblesses. Quoi, quoi, que SOS. Oh.
Barbapapa, barbapapa, une grenouille est en train de mourir.
Faut y aller.
Barbapapa, barbapapa, le ruisseau est tout empoisonné.
Ne restons pas ici, fuyons ces lieux maudits.
Quoi, quoi, bonne solution.
Fuyons la pollution.
Barbapapa, barbapapa, sans attendre en route les amis.
Allons-y.
Barbapapa, barbapapa, sans attendre, quittons ces lieux pourris.
Venez, venez les animaux, quittez vos nids, vos arbrisseaux. Vous aussi les petits, sinon vous crèverez ici.
Wouah wouah.
Miaou miaou.
Coucou coucou.
Piou piou.
Allons serrons les rangs. Hi-ha hi-ha.
Ne restons pas ici, fuyons ces lieux pourris. Cherchons un paradis.
Sophie Guérive investit la littérature jeunesse, la bande dessinée pour les tout-petits, avec la même liberté que les illustres prédécesseurs qui l'ont marquée. Charles Schulz et ses Peanuts, Bill Watterson et Calvin et Hobbes, ou Kino et son héroïne Mafalda. Depuis 2016, elle développe l'univers de Tulip, un ours paisible. Il rêve de parcourir le monde, mais sa fidélité à son arbre le retient. Et ses amis, Crocus le vert et Violette, l'oiseau. Le quatrième tome de Tulip, Les Amours de Tulip, poursuit les questions existentielles de l'ours et de ses amis. La mise en scène est régulière à base de gaufrier, un dessin à la grammaire resserrée, une mise en couleur faite d'aplats, de teintes franches. Sophie Guérive place dans les récits même, dans les dialogues tout en nuances. La liberté est ailleurs, dans les interrogations sur la mort de ses amis. La lisibilité affirmée de ces images donne toute son ampleur au ton de la série. Avec ce trio, elle crée en 2020 le Club des Amis, une bande dessinée pour les jeunes enfants qui ne savent pas encore lire. Avec des gaufriers de 6 cases et quelques variations, elle invite les lecteurs et lectrices dans l'apprentissage de la narration en images, dans la force de la représentation basée sur un dessin fait d'archétypes, un arbre, les nuages, chaque animal, comme ceux que l'on peut voir de façon justement archétypale. Les maisons font sens et apportent cette ampleur à l'histoire. Crocus s'invite dans 6 livres carrés pour les 2 ans. Là aussi, Sophie Guérive évacue le poids de l'apprentissage du propos pédagogique. Elle tire le fil de situations inhabituelles sans convier de chute particulière. Là aussi, la liberté est là. Sophie Guérive est aussi autrice de livres aux ambiances médiévales, aux récits loufoques, aux dessins influencés par l'enluminure, la gravure ou l'estampe japonaise. L'autrice est également scénariste et elle a mis son écriture au service des 2 derniers Spirou. Bonjour Sophie Guérive.
Bonjour Bruno Canard.
Alors, vous avez choisi une musique faite de dessins animés, de celle de dessins animés. Pourquoi ce choix? Quel est votre plaisir à les entendre et à les partager?
Alors en fait, vous m'avez mis dans l'embarras en me demandant de choisir des musiques. Alors, j'ai passé la journée à vraiment réfléchir. Et j'avais d'abord pris des trucs un peu lourds, un peu mélancoliques, tout ça. Et puis à la dernière minute, vers 11h du soir, je me suis dit non, zut alors, ça va être ennuyeux. Et donc j'ai pioché dans des trucs qu'écoutent mes enfants éventuellement. Voilà. Je me suis dit que ça serait un petit peu plus rigolo et que ça, voilà, ça donnerait une ambiance un peu plus sympathique et qui correspond mieux à ce que j'avais envie de.
Voilà. Rassurez-vous, ça a été efficace. Alors, qu'est-ce qui a fait que Tulip est arrivé sous votre crayon?
Alors, tu dis, en fait, je sortais d'une histoire très longue, Capitaine Mulet, que j'avais fait en résidence, quelque chose de assez laborieux. Et puis, du coup, j'avais envie de faire quelque chose de très léger. En fait, j'avais aucun éditeur à ce moment-là, donc je me suis dit, je veux pas faire de livre, je vais juste travailler pour les réseaux sociaux, faire quelque chose de très léger. Et donc, j'ai voulu faire quelque chose de vraiment très simple et très visuel. Avec les tout premiers tulipes étaient en 4 cases avec une phrase en dessous. Donc ça n'avait même pas pour but d'être publié dans un livre, c'était vraiment fait pour les réseaux. Et j'ai repris un personnage que j'avais inventé pendant mes études, que j'avais complètement laissé tomber. Puis je sais plus, il y avait une copine qui l'avait exhumé, je me suis dit tiens, ça serait rigolo. Voilà.
Alors. Comment c'est construit cette série? Parce que mon Tulip, il y a beaucoup de réflexions philosophiques, de questions existentielles. Comment s'est développé ce personnage d'ours, cette petite communauté avec Crocus et Violette?
Alors, à vrai dire, je ne sais plus vraiment comment ça s'est fait au fil du temps. Je me souviens très bien que je l'ai fait pendant un été où j'étais donc en résidence à Angoulême, mais où il n'y avait personne et où j'habitais en bas de la colline et j'avais mon atelier en haut de la colline. Donc mon but, c'était de faire un strip par jour pour m'obliger à monter à l'atelier. Et donc je voulais faire 4 cases par jour comme ça avec ce personnage. Et je pense que j'étais dans un état un petit peu mélancolique ou fatigué cet été-là. Donc je me suis un petit peu motivée avec ce personnage qui était presque une espèce d'auto-psychanalyse. Je pense que je m'en suis rendu compte plus tard. Mais voilà, j'avais pas l'intention de faire quelque chose comme ça. C'est venu vraiment et ça a rencontré une espèce de petit succès. Et du coup, je me suis dit, ah, mais en fait, ça intéresse les gens, quelque chose comme ça qui n'est pas spécialement rigolo. Et voilà, donc du coup, j'ai continué comme ça. Et les autres personnages, je sais pas. Je pense que c'est tout à fait visuel, en fait. Il fallait trois couleurs différentes, il fallait trois placements différents dans la page. Donc j'ai un crocus n'est pas un ver, c'est un serpent.
Ouais, donc, c'est un gros ver alors.
Voilà, c'est ça. Donc il y en avait un au sol, un en l'air et un entre les deux. Donc c'était plus pratique dans les cases de les placer comme ça en dressant un texte, tout simplement. Et il y avait, en fait, ça crée une espèce de triptyque un peu biblique, mais ça, je m'en suis rendu compte après aussi. Voilà.
Alors là, avec les amours tulipes, on se poursuit ces questions intérieures sur la mort. Il y a quelques très belles pages sur la mort. Il y a vraiment cette petite galerie de personnages qui se complètent. Il y a une chauve-souris, il y a une chouette, il y a un corbeau, il y a différents animaux, un tatou. Et donc, eux rentrent tous aussi dans ce même type d'interrogation. Alors, comment on se fait aujourd'hui donc une histoire de tulipes? Quels sont les déclencheurs et comment se finalise chaque histoire?
Alors ça, c'est vraiment... Je décide pas de faire une page. C'est quand j'ai une idée qui vient, ça peut venir d'une conversation, d'une lecture, de n'importe. Souvent, c'est une espèce de sentiment diffus que j'arrive pas forcément à expliquer. Et je me dis, là, il y a un truc pour lequel il n'y a pas forcément de mots que j'arrive pas vraiment à définir. Il va falloir que je fasse un tulipe autour de ça pour circonscrire mon impression. Et en général, c'est ce que j'essaye de faire. Bon, voilà. Donc du coup, je peux ne pas en faire pendant des mois et puis après en faire deux par jour pendant trois semaines. C'est pas du tout régulier.
Alors, vous venez de dire qu'il y a d'autres... Un autre objectif que simplement d'écrire pour les enfants. Il y a cette façon de répondre à des interrogations, des questionnements. Comment écrivez-vous pour la jeunesse? Quels sont les objectifs aussi bien dans Tulip que dans le Club des Amis ou maintenant Crocus?
En fait, je ne pense pas du tout à ce que ce soit jeunesse ou pas. C'est quelque chose que je fais vraiment avant tout pour moi. Et je réfléchis pas à la catégorie. J'ai l'impression vraiment que c'est pas spécialement destiné à un public particulier. Même les tout petits, par exemple, les tout petits crocus qui sont vraiment destinés maintenant que c'est publié et qu'il a fallu trouver un rayon ou le ranger, c'est vraiment pour les tout petits, moins de 3 ans. Mais moi, je l'ai écrit pour faire rire les adultes aussi, parce que c'est des situations qu'on peut retrouver nous en tant que parents ou que gens qui connaissent des enfants. Donc, non, je réfléchis pas du tout en amont. C'est souvent après l'éditeur qui va me dire, bon, bah, ça, c'est pour tel âge. Ou, voilà.
Et par exemple, dans Crocus, il y a une volonté de pas donner d'issue, de chute, comme on le trouve très souvent dans ce type de petits formats carrés, cartonnés pour les tout-petits. Là aussi, c'est une liberté importante pour vous de ne pas être dans ce genre de modèle.
Ah oui, tout à fait. D'autant plus que ça, je ne l'avais même pas fait pour faire des livres. C'était vraiment... je voulais tester les slides d'Instagram. Donc j'ai fait des carrés avec des crocus dessus et j'ai mis des textes. Et puis c'est mon éditeur qui m'a dit « Bon, ben, quand est-ce qu'on sort ça ?» Je fais « Ah, bon !» Et du coup, j'avais pas du tout d'idées préconçues. J'en parlais d'ailleurs avec mon éditeur qui me dit c'est compliqué de faire des formats comme ça. Et je lui ai dit effectivement, si on m'avait dit fais un format comme ça, j'aurais pas pu. C'est vraiment l'inverse qui s'est produit. Et bon ben voilà, en fait, je sais plus ce que je voulais dire.
Bah, c'est déjà un tout. Crocus, ça va être une expérience isolée ou ça peut vous donner envie de revenir vers ce petit format? Et à ce moment-là, est-ce que ça changera la démarche?
Eh ben, ça va être pareil. Je pense que si j'ai une idée qui vient et qui colle bien à ça, c'est super. Sinon, je ne vais pas me forcer parce que ça va être nul. Ça se voit souvent quand... Enfin, moi, en tout cas, ça se voit quand je le fais... par force. Donc, non, en fait, j'ai beaucoup de chance d'avoir un éditeur qui me laisse vraiment beaucoup de liberté. Je pense que je ne l'aurais pas fait avec n'importe qui, d'ailleurs. il y a certains titres sur lesquels on avait un peu hésité. Par exemple, Crocus est puni, on se dit, ah, mais est-ce que c'est pas trop, maintenant, les punitions, c'est pas trop à la mode, tout ça. Donc, voilà, il y a quand même des questions qu'on s'est posées et qui se seraient même pas posées avec d'autres éditeurs qui m'auraient pas permis ce genre de choses. Donc, vraiment, c'est très chouette de pouvoir, là, j'ai vraiment énormément de liberté avec 2024.
Sophie Guéry, je vous propose une pause musicale, donc avec un extrait de la musique de Kirikou, et puis on se retrouve donc dans deux minutes. À tout de suite.
Kirikou est petit, mais il réfléchit.
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 Sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée, nous sommes en direct avec Sophie Guérive, qui est l'autrice de plusieurs séries. Il y a Les Amours de Tulipe, il y a la série Tulipe avec le dernier tome Les Amours de Tulipe, et puis le Club des Amis et ses livres au format carré de Crocus. Alors, le Club des Amis s'adresse à des enfants qui ne savent pas lire et qui n'ont pas forcément ce sens de la narration. Alors, comment s'est abordée l'écriture du Club des Amis ? Est-ce que vous aviez tenu compte du fait que leur narration en image, la façon d'avoir cette gestion du temps n'était pas forcément présente ? Comment avez-vous fait, Sophie Guérive ?
Alors, il me semble que le Club des Amis, j'ai commencé à le faire quand mon fils était assez petit, il devait avoir dans les 2 ans, et on regardait pas mal les dessins animés d'Hilda. Et en fait, c'est des épisodes donc qui se suivent et qui sont à la fois isolés et qui se suivent. Et donc, c'est ça qui m'a donné envie de faire une bande dessinée enfant, en suivant un petit peu ce rythme-là. Et en faisant des espèces de chapitres assez courts. Je pense que j'ai... Alors, là, mon fils a 7 ans maintenant, et il commence à lire ça. Donc, en fait, ça va assez aussi pour des enfants qui commencent à lire. D'ailleurs, il me fait beaucoup de suggestions pour le prochain. Donc, je pense effectivement c'est un rythme qui fonctionne assez bien avec des chapitres comme ça. Et en fait, j'ai repris aussi l'envie que j'avais... déjà dans les autres séries, de ne pas mettre beaucoup de texte, parce que je n'aime pas quand il y a beaucoup de texte. Quoi. Ça coupe un petit peu l'énergie.
Alors, le tome 4 s'appelle « La montagne qui pleure », et il y a donc des paysages qui sont d'une grande sécheresse, avec la roche, une chaleur qui pèse déjà et qui est visible à l'image. Est-ce qu'il y avait cette envie graphique de vous décaler par rapport à d'autres thèmes ? Comment s'est passé les envies de dessin sur cette montagne qui pleure ?
Ben oui, là, c'était vraiment des envies de dessin parce que les autres, en fait, tous les tomes suivent un peu les saisons. Et j'avais juste avant fait un tome qui se passait en plein hiver avec beaucoup de neige. Donc là, en plus, il me semble bien que je l'ai fait en plein été. J'habite dans le sud, donc il fait chaud. Et voilà, je pense que j'avais envie de changer radicalement par rapport au tome précédent qui justement s'arrêtait au printemps. Donc il fallait forcément que la suite se passe en été.
Là, vous inventez un peuple, un petit peuple avec une langue décalée par rapport à la nôtre. Là aussi, comment ça se gère avec les tout jeunes lecteurs ?
Ah ben, écoute, ça, mon fils, il adore quand on lit ces trucs-là, parce que c'est sa partie préférée quand c'est écrit bizarrement et qu'il parle bizarrement. Donc, j'ai essayé de que ça soit suffisamment bizarre pour que ça ait pas l'air fou. Et non, bah, ça passe très bien. J'ai pas essayé sur des plus petits, mais je pense que ça passe assez bien et que ça les fait assez rire, en fait.
Sophie Guérive, quelle dessinatrice êtes-vous ? Comment ça se passe sur votre table à dessin quand vous êtes en train de dessiner Tulip ou le Club des Amis avec ses cases toujours d'une très grande lisibilité ? Est-ce que c'est très méticuleux ou est-ce qu'il y a au contraire une certaine vivacité ?
Bah, en fait, là, depuis quelques albums, je dessine essentiellement sur iPad. Donc on ne peut pas dire que ce soit que je fasse beaucoup de tâches, quoi. Mais non, c'est assez pratique parce que ça me permet de dessiner un peu partout, sur le canapé, sur la table, voilà. Et ouais, en fait, j'aime beaucoup avoir ces gaufriers déjà tout prêts parce que j'ai plus qu'à les remplir. Et donc c'est un petit peu. Quand je m'y mets, j'aime bien dessiner assez vite, c'est un petit peu frénétique. Donc je fais plusieurs pages de suite en général. J'ai du mal à m'arrêter. Mais voilà, c'est vraiment un plaisir pour moi le dessin. Et il faut vraiment que ça aille aussi avec une histoire. J'ai beaucoup de mal à dessiner sur un scénario plus qu'un autre. C'est vraiment. L'histoire se développe au moment où je la dessine. Je fais rarement de scénario avant. Donc c'est vraiment un plaisir presque de lire mon propre truc en même temps. Voilà.
Alors vous avez écrit. Pour Olivier Schwartz, notamment, en reprenant le personnage de Spirou dans ce premier tome qui s'appelle « La mort de Spirou ». Et puis, il y a un titre qui est sorti, le 57e est sorti cette année. Alors, pourquoi cette autre piste ? Avec un personnage très connu.
Ouais. Oui, ça c'est complètement différent, c'est un travail de commande, c'est l'éditeur qui m'a appelé pour me proposer de faire ça. D'autant que là, ces deux tomes sont faits avec un co-scénariste, donc je suis vraiment pas toute seule dessus, c'est un assez gros travail d'ailleurs de travailler avec une équipe, c'est très très différent. Moi je prends assez plaisir à faire que du scénario, mais travailler avec une équipe c'est vraiment un autre travail, c'est une expérience particulière qui peut être intéressante, comme qui peut être compliquée par moments aussi. Et là, c'est vraiment, en plus, il y a ce fait de reprendre un personnage qui est connu, avec une charte quand même assez, assez pointue de ce qu'on attend. Donc oui, c'est vraiment un boulot différent, quoi.
Où se trouve votre liberté dans ce scénario ?
Alors, elle est beaucoup moindre que dans Tulip, ça c'est sûr. Après, moi, j'aime bien travailler aussi sur des petits à côté, c'est-à-dire que là, par exemple, j'ai développé un peu le personnage de Spip, qui est l'écureuil. Chaque fois, tout le monde l'oubliait, ce pauvre Spip, donc je lui mettais des petites aventures à lui. Et puis, moi, après, j'ai écrit énormément aussi de scénarios qui n'ont pas forcément été retenus, ou de parties qui n'ont pas été retenues, ou avec d'autres qui ont été modifiées. Mais c'est un plaisir aussi de proposer des directions différentes, avec toujours un univers commun, mais d'arriver à proposer plein de trucs, et puis qui seront peut-être après d'ailleurs. Mais le fait d'écrire du scénario pur et d'avoir quelqu'un qui va dessiner derrière, c'est assez rigolo et reposant, en fait, quand même. Donc, c'est agréable parce que ça va vite d'écrire par rapport au dessin. Voilà.
Sophie Guérive, quels sont vos doutes ?
Oula.
Oula.
Tout. c'est une vaste question, je ne sais pas. Déjà, je doute de cette question et de cette réponse, je ne sais pas.
Y a par exemple dans Tulipe cette question, est-ce qu'il faut être malheureux pour créer ? Donc il y a quand même des questions qui vous croisez.
Non, ce n'est pas forcément des questions qui me préoccupent plus que d'autres. J'aime bien m'interroger sur un peu tout et je pense que c'est aussi le moteur de mes histoires. Mais bon, après, une fois que j'ai fini ma planche, je passe à une autre question. Ça n'empêche pas de dormir.
Donc, c'est bien. Ça me paraît très, très réjouissant, très, très enthousiasmant. On a parlé animation avec les musiques que vous avez proposées. Vous avez un dessin qui pourrait se prêter à l'animation. Est-ce qu'il y a des projets, des choses qui existent peut-être déjà et qui, est-ce que le mouvement vous intéresserait de l'associer avec votre dessin ?
Dans l'absolu, j'aimerais bien, ouais, je pense que ça pourrait s'y prêter. Après, j'ai été contactée par plusieurs studios et ça n'a jamais rien donné, donc c'est vrai que je suis un petit peu... Et en plus, je sais pas écrire pour le dessin animé, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment que j'apprenne, parce qu'il y a un timing à respecter, c'est vraiment un autre métier. Donc pour l'instant, je suis un peu frileuse avec ça. Peut-être que ça se fera un jour, j'espère, mais j'espère que ça tombera un moment où je pourrai vraiment m'y consacrer, parce que c'est quand même un gros boulot.
Merci beaucoup Sophie Guérive. Je vais rappeler les caractéristiques de vos livres que vient de publier les éditions 2024. Donc il y a la série des Crocus, c'est 6 livres cartonnés de 12 cm par 12 de 26 pages au prix de 9€. Et puis il y a le Club des Amis, donc ce tome 4, La montagne qui pleure, les 56 pages sont au prix de 16€. Et ces deux séries sont dans la collection 4048. Et puis il y a Les Amours de Tulipe, et les 96 pages de ce tome 5 sont au prix de 16€. Et l'ensemble est publié par les éditions 2024. Effectivement, un très bon éditeur. Merci beaucoup et très bonne continuation, Sophie Guérive.
Au revoir. Merci.
Vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les frondaisons. Et toute la jungle est ma maison. Toutes les abeilles de la forêt butinent pour moi dans les bosquets. Et quand je retourne un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessous. Essaye, c'est bon, c'est doux. Il en faut vraiment peu, très peu, pour être heureux.
Mais oui!
Pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Prenez la vie du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez, et vous serez un ours très bien léché. Cueillir une banane, oui, ça se fait sans astuce.
Aïe.
Mais c'est tout un drame si c'est un cactus.
si vous chipez des fruits sans épines, ce n'est pas la peine de faire attention. Mais si le fruit de vos rapines est tout plein d'épines, c'est beaucoup moins bon. Alors petit, as-tu compris? Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux.
Pour être heureux?
Pour être heureux.
Je voudrais terminer avec le livre d'Aude Bertrand, Au travers du rayon. Alors, il y a donc un peu plus d'un an, c'était en mars 2023, j'ai fait un entretien avec Aude Bertrand pour une exposition qui avait eu lieu à Montpellier. Et puis, on a évoqué un de ses premiers livres qui était Au travers du rayon. Également avec ce même titre et qui présentait un livre en rhizographie, une technique de reprographie particulière et avec cette passion pour le cinéma qui était présent dans le récit. Il y a dans ce roman graphique maintenant, qui s'appelle donc toujours Au travers du rayon, cette même passion du cinéma. Mais donc Aude Bertrand a développé cette histoire et gardé cette même fascination pour le cinéma qu'on retrouve dans le roman graphique. C'est un récit d'ampleur qui est même très conséquent, donc ça c'est vraiment important. Et puis il y a donc une façon d'aborder l'histoire, puisque on avait évoqué ce travail du scénario, et donc là Aude Bertrand va reprendre un des thèmes de son premier livre qui est « Peut-on rencontrer le personnage du film et ainsi créer un pont entre réalité, entre le réel et la fiction ?» Donc cette passion du cinéma est cette fois détaillée. On retrouve le personnage de Jeanne, elle travaille dans une conciergerie et elle a cette envie, elle poursuit ce désir, ce fantasme de rencontrer un personnage d'une fiction cinématographique. Elle va s'immerger dans le film, elle en a choisi un, avec le personnage de Mathias, qu'on va retrouver dans un parc, avec quelqu'un à qui il donne rendez-vous tous les dimanches, qu'on va voir dans d'autres situations. Et Jeanne va apprendre les scènes, va essayer de déterminer le moment du récit, imagine, théorise même que si les deux temporalités sont identiques, il y aura peut-être plus de facilité pour que le personnage s'invite dans le réel. Elle croise d'autres personnages, dont un avec qui elle se lie d'amitié, et il y a cette passion du cinéma qui va croiser aussi celle de la musique de ce personnage. Dans ce roman graphique, on découvre cette précision encore plus aiguë que dans le premier livre, beaucoup plus modeste en nombre de pages, où là, il y a toujours ce découpage avec une absence d'espace entre les cases. Donc vous imaginez un grand rectangle dans la page. C'est ce qu'on appelle l'espace tabulaire. Et il est découpé, pareil, avec très souvent une proportion, un gaufrier qui font que les cases sont identiques, avec quelques variations, bien sûr. Et à chaque fois, cette régularité permet d'être, pour le lecteur, dans la case. On suit Jeanne, la personne qu'elle a rencontrée par son travail à la conciergerie. Il y a Alix qui va s'occuper d'un cinéma auquel se rend régulièrement Jeanne. Et à chaque fois, le découpage nous rapproche très rapidement, très facilement des personnages. Nous sommes dans leur entourage, dans leur intimité. Et il va y avoir des glissements plus ou moins marqués entre l'image cinématographique et l'image du réel. Lorsque l'importance du cinéma, du film va être là, va être convoqué, eh bien on va avoir une séquence d'images qui va rappeler le déroulé du film avec ces cases régulières qui ne changent pas de format et qui sont les unes derrière les autres. Et puis, il va y avoir d'autres passages entre réel et fiction où, lorsqu'il y a cette analyse du film, eh bien, l'image va se fondre dans cette continuité narrative où on voit Jeanne en train de prendre des notes, en train de noter les dialogues, de les mémoriser. Et donc on va avoir cette interpénétration entre la fiction et le réel. Et c'est un travail de scénario que Aude Bertrand avait exprimé tout son intérêt pour cette écriture. Et donc là, elle a vraiment peaufiné cette dimension pour donner au lecteur une sensation unique. On n'est pas dans cet espace où l'image cinématographique, finalement, trouve une réalité dans le dessin, va garder une dimension d'image cinématographique, parce que on sent très bien que c'est l'image du film, et pourtant elle est dans cette continuité dessinée. Et là aussi, elle va vraiment jouer sur cette façon d'être imprégné, d'être passionné, d'être nourri par le cinéma et qui se traduit par ce souhait incroyable, idéalisé, fantasmé, de pouvoir rencontrer le personnage d'un film que l'on aime, que l'on a choisi. Il y a différents personnages qui vont croiser le parcours de Jeanne, une personne qui va être extrêmement émue par un film qu'ils regardent ensemble. Il y a cette façon aussi, avec ce jeune qu'elle rencontre, eh bien de montrer les différences de plaisir que l'on a devant des films, que rencontrer le personnage d'un film, ça sera jamais le même selon la personne, que le film que l'on aime sera fort différent. Mais il y a ce moment d'appropriation assez lent qui fait que on se rapproche de cette dimension de l'acteur qui va apporter sa personnalité au personnage qu'il va jouer. Et donc, beaucoup d'idées, de sensations, de points de vue se croisent au travers du rayon, et on va vraiment être très vite dans un espace narratif mis en image avec ce très précis d'Aude Bertrand, espace narratif qui est complètement inhabituel, complètement novateur et parfaitement maîtrisé. Le dessin d'Aude Bertrand est un dessin au trait qui, cette fois, est exprimé avec grande précision par le procédé de l'impression. Ce qui est plus difficile avec la risographie qui donnait au trait de contour un certain tremblé. Mais là, il y a une justesse dans chacun des traits. Il n'y a pas d'hésitation. Il y a une souplesse. Il y a une sorte aussi de fragilité qui est omniprésente par cette façon de ne pas être dans l'exactitude complète, de ne pas être dans cette représentation qui donne l'impression que la personne est en face de vous. Là, il y a toujours une part d'approximation, mais c'est un mot qui est déjà trop fort, comme une réserve pour ne pas enfermer le personnage dans le réalisme. On est dans un réel à travers l'image de la bande dessinée, mais on n'est pas dans un réalisme froid. Il y a dans ce travail de trait, d'une mise en couleur avec des teintes plutôt pastel, avec une palette aussi plutôt réduite, avec quelques couleurs, qui fait que la lisibilité de chacune des cases est toujours complète. C'est un livre tout à fait étonnant parce que complètement inhabituel, qui profite d'une première étape pour se déployer avec beaucoup de maturité. Il y a sur la couverture du vernis sélectif qui donne déjà une profondeur qui convoque le cœur du récit, le personnage de fiction et Jeanne représentée comme personnage du réel. Il y a un film qui est très proche de ça, c'est La Rose pourpre du Caire, où vous avez carrément l'acteur qui quitte le film et puis qui va arriver dans la vraie vie des spectateurs. Là, c'est une autre convocation, mais on est dans une démarche de cette même intensité. Au travers du rayon est donc un livre publié par les éditions 2024 qui ont un lien avec ces autrices qui ont développé une écriture dessinée à travers des fanzines, à travers des publications sans éditeur reconnus, qui ont un catalogue important. Sophie Guérive a fait beaucoup de ce type de publications. Il y a Léa Muravex qui est également aussi dans cette démarche et qui a été publiée par les éditions 2024. Et donc, Aude Bertrand est une troisième autrice qui a aussi donc publié des fanzines et qui a donc maintenant assis son écriture, lui a donné toute l'ampleur qu'elle mérite. Au travers du rayon de Aude Bertrand, donc publié par les éditions 2024, et ce roman graphique est au prix de 26 euros. Merci Fabien pour cette technique. On se retrouve la semaine prochaine. Nous serons en compagnie de Craig Thompson, qui est l'auteur de Ginseng Roots. C'est un auteur américain qui avait publié Blankets et Habibi, un auteur tout à fait exceptionnel. Écriture dessinée.